Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Bamako et Abidjan. À la une, au Burundi, la Cour constitutionnelle confirme les résultats du référendum. Le président Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga se sont excusés pour leurs mots durs lors des dernières élections. Au Tchad, le gouvernement tend la main aux syndicats pour qu'ils mettent fin à la grève. Les discussions entre Mike Pompeo et le bras droit de Kim Jong-un ont repris à New York. C'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Également dans Le Monde aujourd'hui, l'économie et les sports avec le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid. Mais tout d'abord, le journal. Au Burundi, plus de 4 500 000 Burundais ont voté pour le changement de la constitution, soit 73,24% des Burundais qui auraient voté. Aucune irrégularité n'a été constatée car le référendum s'est déroulé normalement, selon Charles Daginjama, président de cette cour. Mais l'opposition dénonce une instance au service du parti présidentiel. Reportage à Bujumbura de Christophe Kurunziza.
Très peu de Burundais de la capitale savaient que les 7 membres de la Cour constitutionnelle allaient valider ou non les résultats du référendum du 17 mai dernier. Ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes quand le président de la Cour constitutionnelle, Charles Ndagijimana, validait les résultats du référendum du 17 mai 2018 sur la radio du parti CNDD-FDD Rema FM. Selon lui, 4 586 730 Burundais ont voté oui pour le changement constitutionnel. Aucune irrégularité n'a été constatée sur toutes les l'étendue de la République, selon le président de cette cour, malgré les intimidations remarquées par certaines formations de l'opposition qui avaient appelé à voter les non. 880 000 habitants ont voté non, soit 19,35% selon le président de la Cour constitutionnelle. Charles Ndagijimana a jugé non fondée la plainte de la coalition affirmant que plus de 96,19% des électeurs burundais ont participé au vote. Il a indiqué également que ces résultats définitifs seront publiés dans le bulletin officiel La République du Burundi. Toutes les formations politiques de l'opposition de l'intérieur et de l'extérieur du pays affirment que la Cour constitutionnelle, tout comme la Commission nationale électorale indépendante, reste des outils au service du parti au pouvoir. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Grève des fonctionnaires au Tchad. Les syndicats de la plateforme syndicale ont refusé d'accepter la compensation en nature proposée par le gouvernement. Madeleine Alingué, la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.
La plateforme syndicale revendicative a annoncé que seul le rétablissement et le paiement du salaire intégral des agents de l'État étaient conditions à la poursuite des négociations. Le gouvernement a exprimé sa surprise et sa déception face à cette volte-face de la plateforme syndicale revendicative, avec en plus un appel à la grève lancé le 26 mai dernier. Le gouvernement a réitéré ses explications sur la grave crise de trésorerie, en plus des risques d'une année blanche dans les établissements scolaires publics et le drame occasionné par la grève dans le service de santé. Cette rencontre qualifiée de constructive a permis de lever les équivoques et d'échanger sur la grave situation financière de notre pays. En cela et en toute responsabilité, la plateforme syndicale revendicative a de nouveau sollicité de consulter sa base afin de répondre à la demande de levée de grève formulée par le gouvernement. Le gouvernement invite les travailleurs et les travailleuses de la plateforme syndicale revendicative à la compréhension et à la sagesse en vue d'un retour à la normale.
9 organisations humanitaires ont été pillées au mois de mai à Bambari, dans le centre de la République centrafricaine, où des violences intercommunautaires ont secoué la ville ces dernières semaines, a annoncé l'ONU. Au courant du mois de mai, dans la seule ville de Bambari, au centre de la Centrafrique, des locaux de 9 organisations humanitaires ont été pillés, ainsi que la Commission nationale des réfugiés, selon un communiqué du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Au Sénégal, le procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné le 30 mars à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture, s'ouvrira le 5 juin. Le procès est prévu devant la Cour d'appel de Dakar. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga se sont excusés pour les mots durs échangés lors des élections de 2017. C'était à l'occasion de la prière nationale pendant laquelle les leaders politiques prient pour la nation. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Nous avons fait campagne l'un contre l'autre, nous avons dit des choses méchantes l'un envers l'autre et aujourd'hui je demande pardon et souhaite présenter mes excuses, a déclaré le président Uhuru Kenyatta. Pour sa part, Raila Odinga a renchéri, je cite, « Plus jamais un Kenyan ne mourra à cause d'une élection », en référence au mois de violence ayant accompagné le scrutin de 2017 et qui ont fait au moins 100 victimes. Les deux hommes qui n'ont cessé de s'appeler « mon frère » étaient accompagnés du vice-président William Ruto et de Kalonzo Musyoka, colistier de Raila Odinga. Ils ont eux aussi présenté des excuses et échangé des accolades. Le président de la Cour suprême, David Maraga, était présent, lui qui a pourtant été vilipendé par le camp Kenyatta après l'annulation du premier tour de la présidentielle pour irrégularité. Par contre, les deux plus importants alliés de Raila Odinga, Musalia Mudavadi et Moses Wetangula, n'ont pas assisté à la cérémonie. C'est la deuxième fois que le président Uhuru Kenyatta et Raila Odinga se retrouvent après leur rencontre de mars dernier.
Les utilisateurs en Ouganda de WhatsApp, Facebook, Skype et autres réseaux sociaux devront à partir de juillet s'acquitter d'une taxe quotidienne en vertu d'une nouvelle législation dans laquelle des défenseurs des droits de l'homme voient une tentative d'étouffer la liberté d'expression. Et puis une entreprise sud-africaine a demandé à la Cour constitutionnelle de confirmer le licenciement de 9 de ses employés. Il leur est reproché d'avoir entonné un chant de lutte anti-apartheid à connotation raciale. La société de collecte de déchets a renvoyé cette année 9 employés qui avaient entamé une grève illégale et entonné la chanson « Monte sur le toit » et « Crie que ma mère se réjouit qu'on frappe les Boers, non des descendants des colons hollandais ». Mais un syndicat qui représente les employés licenciés a jugé ridicule l'argument avancé par l'employeur. Le Parlement européen a fermement dénoncé la condamnation à mort de la jeune Soudanaise pour avoir tué son mari accusé de l'avoir violé. Le président américain Donald Trump attend incessamment un courrier de son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Pendant ce temps, les discussions entre les négociateurs en chef ont repris aujourd'hui à New York en vue du sommet du 12 juin. Abdourahmane Dia.
Les grandes manœuvres diplomatiques vont bon train à 12 jours de l'éventuel tête-à-tête inédit entre un président américain en exercice et un numéro 1 nord-coréen le 12 juin à Singapour. Pour sa part, le président américain a déclaré ce matin qu'il avait hâte de voir ce qu'il y a dans la lettre de Kim Jong-un. Il a précisé que les émissaires nord-coréens actuellement à New York se rendront probablement demain à Washington. Les rencontres ont repris ce jeudi matin entre le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et le bras droit de Kim Jong-un, le général Kim Jong-chol, qui est le plus haut dirigeant nord-coréen à fouler le sol des États-Unis depuis 18 ans. Les deux hommes se sont déjà vus à 2 reprises à Pyongyang lors des voyages de Mike Pompeo ce printemps. Hier, ils ont échangé une longue poignée de main avant d'entamer leur entretien sans répondre aux questions des médias. Mais Moscou s'est immiscée dans le processus car Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe, s'est rendu à Pyongyang et a invité Kim Jong-un en Russie.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Le tabac vous brise le cœur et le slogan retenu cette année, l'occasion de rappeler que la cigarette ne s'attaque pas simplement aux poumons. Le tabagisme est la deuxième cause principale de maladies cardiovasculaires après l'hypertension artérielle. D'après l'OMS, le tabac tue plus de 7 millions de personnes par an, dont près de 900 000 qui ne fument même pas. Pour se prémunir, les médecins n'ont qu'un seul conseil, arrêter de fumer ou ne jamais commencer. Pour en parler, Eric Manirakiza, adjoint à Newcastle, le professeur Edouard.
Les dangers du tabagisme et commencent dès la grossesse de la maman et qui continuent toute la vie jusqu'au dernier jour des adultes. Donc le tabac est un produit qui est vraiment nocif à tout âge, mais cette année-ci, l'OMS met l'emphase sur les maladies du cœur, sur les attaques cardiaques et les accidents cérébrovasculaires pour que les gens puissent comprendre que c'est vraiment dangereux de continuer à fumer et que les gens devraient prendre des mesures pour cesser de fumer.
Le cancer également?
Naturellement, le cancer du poumon. Il y a aussi les enfants qui naissent en bas poids. Et quand ils naissent, il y a l'asthme et d'autres maladies respiratoires. C'est un fléau qui affecte tous les âges. C'est un produit qui est vraiment nocif et dangereux pour tout le monde à travers tous les âges. Il faut que les politiques en Afrique prennent conscience de ça et qu'ils redoublent leurs efforts pour contrôler réellement le tabagisme en Afrique.
Le docteur Edouard Tursan-Despeignet, professeur à l'université de Newcastle. En France, un procès hautement politique de deux militants suisses et une italienne poursuivis pour avoir aidé des migrants à passer illégalement la frontière est en plein débat sur l'accueil des réfugiés a été renvoyé pour une question de constitutionnalité et le contrôle judiciaire strict auquel étaient soumis les trois prévenus a été levé. Le tribunal correctionnel de Gap dans les Alpes françaises a renvoyé le procès au 8 novembre en invoquant une question de priorité constitutionnelle. Le Danemark rejoint la France et la Belgique avec l'adoption d'une nouvelle loi interdisant le port du voile intégral islamique dans l'espace public. Toute personne qui, dans les lieux publics, porte un vêtement qui cache le visage est passible d'une amende, dispose ce nouveau texte qui pourra rentrer donc en vigueur à partir du 1er août. Voilà pour le journal. C'est à présent le moment de la Minute Éco. Vous écoutez VOA Afrique et la Minute Éco vous est présentée par Eric Manirakiza.
La boîte prévoit de lever 50 milliards de francs CFA chaque année pour financer notamment au Togo des projets sur le changement climatique et promouvoir les énergies renouvelables. En mars dernier, la Banque de financement du développement dans l'espace UMOA avait annoncé avoir franchi la barre des 5 000 milliards de francs CFA de financement au profit des pays de la zone d'intégration. Les questions environnementales sont au centre des opérations de la BOAD depuis 2003. Le Gabon et la FAO veulent promouvoir le secteur de la pêche et l'élevage du poisson. Le gouvernement a aussi sollicité un appui de la FAO sur le renforcement des capacités des populations qui vivent des activités de la pêche artisanale. Les deux parties ont enfin convenu de la mise en place d'un cadre de travail pour définir la feuille de route des appuis prioritaires identifiés à l'organisation d'un groupe thématique sur la pêche et l'élevage du poisson. Libreville a exprimé la nécessité de mener des actions à l'endroit des populations locales et des infrastructures de débarquement des produits de la pêche. La chancelière allemande Angela Merkel a jugé illégale les taxes douanières sur l'acier et l'aluminium décidées par les États-Unis. Première économie de l'Union européenne, l'Allemagne est particulièrement vulnérable en raison de sa forte dépendance à l'égard de l'industrie automobile qui est aussi dans le collimateur de Donald Trump.
À présent, place à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Coup de tonnerre, Zinedine Zidane quitte son poste d'entraîneur du Real Madrid.
Et oui, Zinedine Zidane a annoncé à la surprise générale qu'il quittait son poste d'entraîneur du Real Madrid 5 jours seulement après sa 3e victoire consécutive en Ligue des Champions qu'il a définitivement fait entrer dans l'histoire du football. Écoutons le désormais ex-entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane.
Tomé la décision de ne pas suivre le prochain an dans le cargo d'entraîneur du Real Madrid.
J'ai pris la décision de ne pas poursuivre l'année prochaine comme entraîneur du Real Madrid. J'ai parlé avec Florentino Pérez pour lui expliquer ce qui se passait. Et je pense que c'est le bon moment pour tout le monde. Tout d'abord pour moi, mais aussi pour le club. En
plus de la Liga décrochée en 2017, ZZ a remporté toutes les 8 finales qu'il a disputées en tant qu'entraîneur, dont 3 Ligues des Champions de suite, un palmarès hors norme, et ce, moins de 3 ans seulement après le début de sa première expérience comme coach principal en janvier 2016. Pourquoi alors partir maintenant ? Zizou s'explique.
Il y a un moment qui se vit, on le vit à fond, pleinement. Et à un moment donné, faut savoir aussi s'arrêter et se dire que ce que je veux pour le bien aussi de cette équipe, de ce club, c'est que je veux qu'il continue à gagner. Et je pense sincèrement qu'avec moi, ça aurait été peut-être compliqué. Cette étape, elle s'est terminée bien quand j'étais joueur. Elle se termine bien que je suis entraîneur. Et ça sera toute la vie comme ça. Et donc, ça, c'est mon intelligence pour dire que c'est le moment.
C'était donc Zinedine Zidane, le désormais ex-entraîneur du Real Madrid.
Bonne nouvelle pour le Pérou, Guerrero va pouvoir disputer le Mondial.
Le tribunal fédéral suisse, devant lequel le capitaine du Pérou a fait appel de sa suspension pour dopage, a accordé l'effet suspensif à son recours contre la décision rendue par le tribunal arbitral du sport. Le tribunal fédéral suisse, qui n'a pas encore reçu les motivations de la décision du TAS, jugera sur le fond après le Mondial. Le Pérou, versé dans le groupe C, affrontera la France, le Danemark et l'Australie. D'abord suspendu 6 mois pour un contrôle positif à la cocaïne, Guerrero avait fait appel de cette décision demandant son annulation. Le 14 mai, le TAS avait décidé de porter sa suspension de 6 à 14 mois, privant ainsi le joueur du Mondial.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kia Badou, toujours en votre compagnie, vous écoutez VOA Afrique, place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, beaucoup de candidats s'annoncent au sein de l'opposition congolaise pour la présidentielle du 23 décembre prochain, mais certains partis de l'opposition optent pour une candidature unique et appellent au regroupement. Eddy Isengo a interviewé sur la question le candidat du parti Congo Nabisso, Freddy Matungulu.
Pour le moment, chaque regroupement a son candidat, tout à fait normal. Mais comme vous le savez, nous sommes en train de travailler ensemble pour trouver la méthodologie et les moyens qui nous permettraient d'arriver à la présentation d'une candidature commune de l'opposition à la prochaine présidentielle. Nous avons mis en place une équipe technique qui a fini la préparation d'une charte devant définir un peu nos obligations dans le cadre de ce processus. Et je crois que quand je serai de retour tout à l'heure au Congo, nous allons continuer le travail technique et on aura des réunions au niveau des chefs de regroupement politique pour faire aboutir ce processus. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à mettre en place cette candidature commune d'opposition pour la prochaine présidentielle.
Et vous-même, vous êtes candidat pour votre parti, le Congo Nabisso, et puis pour votre plateforme.
Tout à fait. Mon parti, comme vous le savez, c'est Congo Nabisso, CND, et le regroupement politique que nous avons mis en place s'appelle SIENCO, la synergie électorale Notre Congo. Et nous allons partir comme représentants.
Vous parlez de l'ensemble de l'opposition, mais on vous voit plutôt aller avec l'UNC et le MLC.
Mais vous vous rappellerez que lorsque les différents groupes se sont retrouvés la dernière fois, il y avait des représentants évidemment de l'Union pour la Nation, du MLC, de Congo Nabisso et SIENCO, mais également ceux de l'UDPS et d'ensemble. Je crois que pour le moment, dans cette vision, la mise en place d'une candidature commune de l'opposition, nous sommes en train de travailler ensemble.
On entend de plus en plus de voix qui s'élèvent au sein de la majorité présidentielle disant que Kabila devrait briguer un autre mandat. Il se base sur le fait que certains fondamentaux de la Constitution ont été touchés par des réformes. Comment réagissez-vous?
Bon, ben ça, c'est une démarche qui n'a aucun fondement. C'est ce que nous disons. Nous travaillons sur la base de la Constitution comme nous la connaissons, amendée bien entendu en 2011, mais qui indique clairement que le président de la République fait un mandat qui peut être renouvelé une seule fois et qu'au-delà, on n'est plus éligible. C'est le cas de Kabila. Il a terminé son second et dernier mandat et en ce qui nous concerne, il est peut-être question qu'il puisse se représenter.
On est pratiquement au mois de juin, ce qui signifie dépôt de candidature pour la députation et en juillet pour la présidentielle. Pensez-vous que réellement on aura des élections le 23 décembre?
Cette fois-ci, nous avons un calendrier électoral. Nous n'avons pas besoin d'attendre décembre pour savoir si oui ou non, on aura cette élection.
Freddy Matungulu, candidat à la présidentielle du parti Congo Nabisso.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis ce jeudi à 18h05 temps universel sur VOA Afrique. Zinedine Zidane a annoncé qu'il quittait son poste d'entraîneur du Real Madrid 5 jours après sa 3e victoire consécutive en Ligue des Champions. Pensez-vous que ce soit une bonne décision? Que retenez-vous de ces deux carrières de joueur et d'entraîneur? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Que peut-on apprendre le Burkina du système de dialogue politique au Danemark? Une délégation de représentants des partis politiques au Parlement a séjourné à Copenhague du 12 au 19 mai. Ce matin, ils étaient au palais de Kosiam pour remettre le rapport de leur constat au président du Faso, Roch Kabore. L'opposant et ancien ministre Ablasé Ouédraogo faisait partie de la délégation. Joint par Bagassi Koura, il revient d'abord sur les raisons de leur voyage au Danemark.
Si nous avons eu l'opportunité donc d'aller à Copenhague, c'était tout simplement pour vivre avec les Danois le déroulement du processus démocratique dans leur pays. Et nous avons beaucoup appris. Et très simplement, nous sommes revenus avec la conviction, et c'est eux qui nous l'ont dit, La démocratie, c'est l'art de se mettre d'accord sur les désaccords. C'est tout un programme. Et nous avons appris aussi que pour qu'il y ait démocratie, il faut de la stabilité. Et pour qu'il y ait de la stabilité, il faut qu'il y ait du dialogue. Et c'est par le dialogue, par la négociation, par le consensus qu'on se met d'accord sur l'essentiel des programmes, si bien que même en cas d'alternance, même en cas de changement d'homme, ce qui est essentiel pour le pays demeure. Et c'est ça la stabilité. C'est ce que nous avons appris pendant notre séjour.
Alors, ce matin, un rapport a été remis au chef de l'État concernant donc ce séjour à Copenhague. Quelles peuvent être les prochaines étapes?
Je pense qu'il faut travailler. Il faut travailler à ce que le dialogue politique au Burkina Faso devienne une réalité. Il faut restaurer la confiance entre les Burkinabés. Et le chef de l'État, de par ses prérogatives constitutionnelles, étant le garant de l'unité nationale, nous l'avons rencontré donc ce matin et le chef de l'État s'est engagé à aller de l'avant. Il a indiqué sa disponibilité donc à accompagner le processus qui est, j'allais dire, lancé. Et je pense que l'étape de Copenhague aura été d'une grande utilité pour la restauration d'une confiance, la restauration d'un respect de tout au Burkina Faso.
On parle d'une première phase de 6 mois.
Et ça, c'est le programme. C'est le programme que les Danois se proposent de nous offrir pour accompagner le processus. Donc, c'est une période au cours de laquelle beaucoup d'actions aideront à développer le dialogue entre les Burkinabés. Pour la majorité des Burkinabés, la réconciliation est une impérieuse nécessité. Et de ce fait, avoir la chance d'organiser la réconciliation nationale et remettre les Burkinabés ensemble et les remettre au travail, c'est une perspective très heureuse pour notre pays.
Ablassé Ouadréogou a été joint à Ouagadougou.
Cette semaine, dans Washington Forum, retour sur la grève des étudiants qui a récemment agité les campus sénégalais. Suite aux protestations et les affrontements avec les forces de l'ordre, le président Macky Sall a annoncé une augmentation des bourses et une baisse du prix des repas dans les universités publiques. Ces mesures suffiront-elles à calmer les étudiants ? L'État sénégalais a-t-il les moyens de soutenir financièrement tous les étudiants ? Quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants au Sénégal? On en discute ce jeudi à 19h30 temps universel sur VOA Afrique.
Les États-Unis ont imposé à l'Union européenne, au Mexique et au Canada d'importantes taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium. À partir de demain, vendredi, Washington met en place des tarifs de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium. L'Union européenne et le Mexique promettent dans la foulée des représailles. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris l'économiste Sylvie Matelli.
Je crois qu'on est toujours dans cette logique de Washington de pousser les Européens, les Canadiens, les Mexicains à aller dans la direction où souhaitent les faire aller les États-Unis. Donc ce qu'il faut en conclure, c'est que finalement, les partenariats traditionnels, les ententes traditionnelles, les alliances traditionnelles n'ont pas grande de valeur pour l'administration américaine qui est aujourd'hui en place. On peut punir ses plus proches alliés, c'est pas très grave, et puis on va s'entendre avec des pays qui à la base sont considérés plutôt comme des concurrents, voire comme des menaces. Et pourquoi les États-Unis font ça? Eh bien très probablement parce qu'ils ont tiré la conclusion qu'au fond, ce sont des pays calmes, entre guillemets. C'est pas des pays qui vont poser des rétorsions. Ce n'est pas des pays qui sont très dangereux pour les États-Unis. Donc, on tape et puis on attend de voir ce qui va se passer, mais on n'a pas trop de crainte quant à ce qui pourrait se passer en termes de rétorsions.
Est-ce que c'est une stratégie qui va payer pour Washington? Parce que le secteur de l'automobile va aussi être atteint.
Ça, l'avenir nous le dira. Moi, je crois que ce n'est pas la bonne stratégie, mais quelque part, ça peut fonctionner aussi, hein, et on peut se tromper aussi. Si les Européens ne sont pas unis pour réagir, si les Européens ne se positionnent pas, si les Canadiens ou les Mexicains ne se positionnent pas et ne s'opposent pas à ces mesures, les Américains auront tout gagné en réalité. Ils auront taxé l'acier, il n'y aura aucune, donc protéger ce secteur aux États-Unis avec des conséquences qui seront relativement mineures pour leur économie. Alors encore une fois, tout est relatif, puisque si le président Trump aborde, évoque ensuite, après l'acier, la question de l'automobile, c'est parce que, bien évidemment, le secteur automobile américain va souffrir de ce protectionnisme sur l'acier et que, finalement, le président américain se dit « mais qu'à cela ne tienne ».
Est-ce que l'Union européenne a les moyens de répondre à ces mesures de Washington? Quels sont les produits américains, par exemple, qui souffriraient?
On avait parlé des Harley-Davidson et beaucoup avaient rigolé, mais au-delà de ça, il y a tout un ensemble de secteurs d'activité qui peuvent être touchés et choisis par l'économie européenne. L'Europe est le premier partenaire commercial des États-Unis et vice-versa. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Europe en dehors des pays européens en tant que tels. Donc bien évidemment, quand on a des relations commerciales aussi importantes, des mesures de protection peuvent faire du mal des deux côtés et les deux parties ont les armes pour se protéger.
L'économiste Sylvie Matelli à Paris. Antonio Guterres, numéro 1 de l'ONU, était hier en visite de quelques heures à Mopti, l'occasion de rencontrer les acteurs politiques et notables sur place. Notre correspondant Mamadou Boukoum nous fait le point.
Première étape de cette visite, le QG de la force conjointe du G5 Sahel, où le secrétaire général des Nations Unies a eu un tête-à-tête avec l'état-major. Ici, on attend beaucoup de l'ONU. Didier Dacko est le commandant de la force conjointe.
Ce que nous attendons de l'ONU, c'est un peu ce que nous attendons de toute la communauté internationale, un appui. Un appui dans toutes les dimensions, que ce soit sur le plan opérationnel, que ce soit sur le plan logistique, et pour aider la force à se construire davantage au plus vite et faire face ensuite aux missions qui sont les leurs.
Cette force, dont la mission première est de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, peut compter sur l'accompagnement du diplomate onusien Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.
Nous ferons un plaidoyer très fort face à la communauté internationale pour que le G5 puisse disposer des ressources financières et matérielles nécessaires à son efficacité. Et nous demandons aussi à la communauté internationale un grand investissement pour le développement de la région, le développement du Sahel, parce qu'il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix.
Autre rencontre que le diplomate portugais a eue à Mopti, c'est celle avec les leaders communautaires et les organisations de la société civile. L'occasion était bonne pour la présidente de l'OCS de Mopti de dresser le tableau de la situation dans la région, Madame Diallo Tatatouri.
L'insécurité que nous vivons aujourd'hui dans notre région, c'est un cycle infernal. On le dit, sans sécurité, pas de développement, sans sécurité, pas de paix. Et nous n'avons ni la paix ni le développement dans notre région. Le développement socio-économique à l'heure actuelle est carrément freiné. Pas d'école, pas de centre de santé dans la majeure partie des zones.
Le plus haut fonctionnaire international a montré sa disponibilité à accompagner le Mali afin de trouver une solution à cette crise, une crise qui sévit dans notre pays depuis 2012. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
Je voudrais profiter de cette occasion pour demander une solidarité bien plus forte à la communauté internationale. Il y a toutes les raisons pour le faire. La solidarité avec le peuple malien qui a énormément souffert. Mais c'est aussi l'intérêt de tout le monde.
Cette visite à Mopti d'Antonio Guterres est un pas géant dans la quête de solutions aux difficultés dans lesquelles vivent les populations de la région. Mamadou Boukoum à Mopti pour VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. À la console, Georges Léonard Sagno. À la mise en onde, Justin Tweet. À la présentation, Ekia Badou. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM,
à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.